أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں
comme nous le savons tous 120 ans de cela au cours du mois de mars, le 23 mars plus exactement, une grande prophétie du Saint-Coran s'est réalisée, une prophétie que Dieu avait annoncée au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une prophétie qui était porteuse de bonnes nouvelles pour l'islam. Et il a été dit que pendant 1000 ans, la Oumma serait plongée dans les ténèbres et que les musulmans seraient des musulmans de nom. Et qu'après cela, Dieu avait annoncé qu'il y aura la venue de cette pleine lune qui allait prendre la lumière de ce soleil qu'est le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et selon le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, cette lune va répandre sa lumière jusqu'à l'éternité. Et que cette communauté va durer jusqu'à la fin de l'éternité. Et que grâce à la beauté et la lumière de la charia du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, cette personne va tout le temps éclairer les cœurs. L'ère de cette jamaat, de ce fils spirituel du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, débuta le 23 mars 1889, quand Allah lui a révélé que إذا عزمت فتوكل على الله واصنع الفلك بأعيننا ووحينا الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. Dans son ouvrage « Izala et Oham », le Messie premier l'Islam a traduit cette révélation, où il a été dit donc « Lorsque tu as pris ta décision, place ta confiance en Dieu et construis cette arche devant nous et selon nos révélations. Quant à ceux qui te prêtent allégeance, ils ne prêtent pas allégeance à toi, mais prêtent allégeance à Dieu. La main de Dieu est sur leur main. » Et ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré qu'après la création de cette communauté, Dieu m'a révélé que les ténèbres règnent sur terre et que je dois préparer une arche. Quant à celui qui y entrera, il sera sauvé de la noyade. Et quant à ceux qui rejettent cette arche, la mort les attendra. Donc, suite aux ordres de Dieu, le 23 mars 1889, le Messie premier l'Islam a accepté le serment d'allégeance de centaines de personnes ce jour-là. Et des centaines de chanceux sont entrés dans cette arche. Et au cours de sa vie, des centaines de milliers de personnes l'ont accepté. Et ces gens qui lui ont prêté allégeance se sont acquittés de la responsabilité et Allah a posé sa main sur eux et ces gens ont continué à faire des progrès spirituels. Ces gens ont fait face à des tempêtes d'opposition et d'hostilité. Ils ont dû faire face à l'animosité de leur peuple et des autres. Et quant à ceux qui lui ont prêté allégeance, certains sont tombés en martyrs. Et le plus grand des martyrs est Shahibzada Sayyid Abdul Latif, Shahid Sahib. Suite à une fatwa des mollahs et sur l'ordre du roi, il a été enterré à moitié et ensuite il a été lapidé à mort. Et tout cela nous rappelle les persécutions subies par les premiers musulmans. Ces premiers musulmans, c'est-à-dire les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Mais en dépit de l'hostilité, en dépit de l'opposition de l'État, en dépit de tous ces complots, cette communauté de Dieu a progressé. Et en fin de compte, le 26 mai 1908, suite au décret de Dieu, le Messie premier l'Islam est décédé. Il a complété sa tâche et s'est présenté à son Seigneur. Et tout comme Allah lui avait révélé ses paroles de consolation, que la deuxième période de sa Jamaat va débuter avec la manifestation de cette gloire de Dieu. À ce propos, il déclare, « Ainsi, Dieu manifeste-t-il sa puissance de deux façons, la première durant la vie de ses prophètes et l'autre après leur mort, quand toutes sortes de difficultés entourent leurs mouvements encore naissants, quand leur adversaire semble avoir le dessus et sonne le glas et croit dur comme fer que cette communauté est finie, quand encore leurs propres disciples sont assaillis de doutes et commencent à perdre patience et courage, et quand enfin beaucoup de malheureux prennent le chemin de l'apostasie. C'est dans ce moment aussi désespéré que Dieu manifeste la deuxième forme de sa puissance et relève le mouvement qui semble échouer. Celui qui patientera jusqu'à la fin assistera à ce miracle de Dieu. » Fin de citation. Lorsqu'a débuté cette deuxième période, tout comme l'avait déclaré le Messie premier l'Islam, certains ont été assaillis de doutes malheureusement et sont tombés victimes de leur égocentrisme. Le premier calife a essayé de les réformer, a essayé de les ramener à la raison, mais au cours du deuxième califat, malheureusement, certains ont abjuré leur foi. Et ils n'ont pas essayé de comprendre que Dieu s'occupe de la Jamaat qui semble s'échouer en leur accordant ce signe de Yadullah Fawqa Aydihim. En dépit de leur discernement, ces gens n'ont pas compris et n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas compris que celui qui se trouve dans l'arche sera sauvé de la noyade s'il est constamment attaché à la deuxième manifestation. Et cette deuxième manifestation n'est pas un anjuman ou un corps administratif, cette deuxième manifestation, c'est le califat. Aujourd'hui, nous sommes chanceux car nous sommes attachés au califat et nous sommes dans cette arche bâtie par le Messie premier l'Islam. Et ainsi, nous sommes protégés de la noyade. La main de Dieu est sur nous. Le monde est en train de s'engouffrer dans les ténèbres. Et les Ahmadis, quant à eux, sont en train de voir les signes des grâces de Dieu. Depuis 1908 jusqu'à aujourd'hui, l'ennemi a essayé d'anéantir la Jamaat avec de nouveaux complots. Mais Allah nous a toujours protégés des conséquences de ces grands complots et il nous a tout le temps protégés des efforts de l'ennemi. Suite aux promesses de Dieu, d'une part, cette Jamaat est en train de se répandre dans le monde. D'autre part, la jalousie est en train de s'amplifier. Et l'hostilité est en train de grandir. Et là où les mollahs sont en train de régner en maître, là-bas, ils ne cessent de commettre ces actes de persécution contre les Ahmadis. Mais face à toute hostilité, par la grâce d'Allah, la foi de chaque Ahmadi ne fait que grandir davantage. Car Allah avait déjà annoncé que les croyants seront éprouvés pour la cause de Dieu. À ce propos, le Messie premier l'Islam déclare, du Saint-Coran, l'on peut déduire que pour parfaire la foi, les épreuves sont nécessaires. Tout comme il a été dit, « Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun » Les gens pensent-ils qu'ils ne seront pas éprouvés lorsqu'ils vont dire que nous avons cru? Le Messie premier l'Islam déclare donc, les épreuves sont nécessaires. Tous ceux qui vont entrer dans cette communauté doivent passer par des épreuves. Et bon nombre de nos amis ont dû se séparer de leurs parents. Ils ont dû se séparer de leurs parents en raison du fait qu'ils ont embrassé l'Ahmadiyya. Et ensuite, ils déclarent que quand on fait face à de grandes épreuves et lorsqu'on fait preuve de patience pour la cause de Dieu, l'on reçoit des bonnes nouvelles de la part des anges. C'est en raison de ces épreuves que ces gens se rapprochent de Dieu. Ensuite, il déclare, l'on ne peut faire de progrès sans traverser des preuves. Voilà donc les conseils qu'il nous a prodigués. Et par la grâce d'Allah, les Ahmadis se sont cramponnés à ces conseils. Et tout Ahmadi comprend ce fait, que l'hostilité à notre égard agit comme du fumier. Au cours de mon précédent sermon, j'ai évoqué les convertis de la Bulgarie. Il y a certains qui viennent d'embrasser l'Ahmadiyya, il y avait d'autres qui ont embrassé l'Ahmadiyya depuis quelques années. Le mufti du pays et l'État a fait arrêter ces Ahmadis. Et ces Ahmadis ont été mis en garde à vue par la police. Lorsque je leur ai transmis mes salutations et lorsque je me suis enquis de leur état, Le missionnaire m'a dit ou m'a informé que je les ai contactés tous et tous ont répondu que par la grâce d'Allah, nous sommes fermes dans notre foi et ces difficultés ne sont rien. Et certains étaient émus et commençaient à pleurer. Et ils m'ont dit que ne vous souciez pas de nous, certainement nous allons passer par cette épreuve pour la cause de Dieu. Priez pour nous. Les gens demandent quelle est la révolution apportée par le Messie premier salam. Si ce n'est pas une révolution, alors c'est quoi une révolution? Il a fait comprendre aux Ahmadis l'esprit réel du sacrifice à la lumière du Saint-Coran. Il a fait comprendre aux Ahmadis que si vous voulez jouir de la proximité de Dieu, alors vous allez devoir faire des sacrifices et vous allez devoir passer par des épreuves. Ici, cela concerne des habitants de l'Europe et on ne pouvait pas imaginer de telles choses à leur propos. Ce sont des gens qui ont vécu pendant longtemps sous le communisme. Mais maintenant, ces personnes ont établi une relation spéciale avec le califat et le Messie premier salam. Et tout cela découle uniquement de la grâce de Dieu. Et ces gens sont en train de jouir de cette grâce pour la simple raison qu'ils se sont joints à la Jamaat du Messie premier alayhi salam. Et les nouveaux convertis en Inde aussi sont en train de subir des persécutions. Et selon les traditions, ils sont victimes de ces mollahs. Et les mollahs sont en train de soulever les musulmans contre eux. Et le gouvernement ne veut pas prendre de mesures à ce propos parce que les élections sont proches et parce qu'ils ont besoin des votes des musulmans, alors que les Ahmadis, quant à eux, n'ont aucun poids. Mais que ces persécuteurs et que toutes ces personnes qui ferment les yeux sur ces persécutions sachent que certes, la Jamaat n'a aucune force matérielle. Mais Allah est avec la Jamaat Ahmadiyya. Allah est notre maître et lorsqu'il vient en aide, il fait tout disparaître sur son passage. Lorsque son décret entre en action, rien ni personne ne peut l'arrêter. Les Ahmadis de l'Inde doivent faire preuve de patience. Ils doivent prier davantage et doivent renforcer leur lien avec Dieu. Au Pakistan aussi, l'hostilité contre les Ahmadis est arrivée à son comble. L'on ne peut être qu'ébahi en voyant les efforts des mollahs et les actions du gouvernement. Dans le sous-continent indien, après la venue du Messie premier salam, les mollahs ont essayé de nuire à sa personne et de nuire à sa communauté. Et ils ont soulevé les non-musulmans contre sa Jamaat. Ils ont voulu anéantir la Jamaat, ils ont voulu nuire à cette communauté. Mais après chaque effort de leur part, la Jamaat n'a fait que progresser davantage. Mais en voyant tout cela, ils ne comprennent pas cette réalité, que cela prouve que cette Jamaat n'a pas été établie par un homme, mais a été établie par Dieu lui-même. Et que l'existence de cette Jamaat est un des signes de Dieu. C'est un signe de l'accomplissement d'une grande prophétie. Un grand signe évident s'est accompli. C'est pour cette raison que je leur dis qu'ils doivent user de leur intelligence et qu'ils ne doivent pas se mesurer à Dieu. Au contraire, ils doivent se prosterner devant Dieu et se repentir et doivent venir aider celui qui a été envoyé par Dieu. Mais ils ont des voiles sur les yeux et sur l'esprit. Et au nom de l'islam, au nom de Dieu, ils sont en train de commettre des exactions contre des serviteurs de Dieu. Mais ils oublient que lorsque la persécution arrive à son comble, le cri « Mata Nasrullah » s'élève, à savoir « Quand viendra l'aide d'Allah ?» Et Allah répond « Inna Nasrullah al-Qarib » Certainement, l'aide de Dieu est proche. Donc, partout, les Ahmadis sont victimes de ces exactions. Et toutes ces exactions ne font que rapprocher Dieu et les Ahmadis. Après la partition de l'Inde, la majorité de ces pseudo-oulémas sont venus au Pakistan. Et comme nous le savons, quotidiennement, nous entendons parler d'eux généralement et en référence aux Ahmadis. Et l'on constate qu'ils sont de ceux qui ont lancé cette tempête de turpitude. On sait très bien comment sont traités les Ahmadis, mais le nom du pays est traîné dans la boue par ces personnes. Ces gens se posent en bienfaiteurs du pays et disent aux Ahmadis que vous avez que trois options. Soit que vous abandonnez l'Ahmadiyya, ou que vous abandonnez le pays, ou soyez prêts à mourir. Mais le comble du malheur, c'est que ces gens sont en train de commettre toutes ces exactions au nom de l'islam et au nom du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et ils disent que nous sommes en train de faire tout cela tout simplement pour maintenir et protéger le saint prophète comme le meilleur des prophètes et comme le saut des prophètes. Ils disent que nous sommes en train de faire tout cela par sens de l'honneur pour la religion. Et selon eux, ce pays a été acquis au nom de l'islam. Et dans ce pays, l'on doit y montrer plus de sens de l'honneur pour la religion. Et pour eux, le sens de la religion signifie tuer les gens de Dieu au nom de Dieu. Premièrement, le sens de l'honneur qu'éprouvent les Ahmadis pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est impossible à être démontré par ces mots-là. Les Ahmadis, pour transmettre le message de l'islam dans les quatre coins du monde, sont en train de faire des sacrifices et ces gens n'arrivent même pas à faire un centième de ces sacrifices. Et tout cela, en dépit qu'ils sont soutenus par des pays musulmans qui possèdent de grandes richesses et des pétrodollars. Mais ces mots-là utilisent ces richesses pour leurs besoins personnels. Ils sont en train de remplir leurs poches et dépensent ces richesses pour semer la terreur et la barbarie. Mais ils ne font aucun effort pour le tablir de l'islam, pour prêcher le message de l'islam. Ces mollahs qui disent que nous ne pouvons supporter que les Ahmadis ou les Qadianis puissent vivre dans ce pays, dans ce bastion de l'islam. Que ces gens sachent que les Ahmadis sont les premiers qui ont fait des efforts pour la création de cet État qu'est le Pakistan. C'est un fait que les gens doués de bon sens ont accepté. Quand les Ahmadis faisaient ces efforts, vous, les soi-disant bienfaiteurs du Pakistan, vous, vous étiez en train de vous opposer à la création du Pakistan. Qu'a fait la Jamaat Ahmadiyya pour les droits des musulmans et la création du pays? Je vais citer les déclarations des non-Ahmadis. C'est une coïncidence que le 23 mars est aussi la date de la création du Pakistan. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes justes qui ignorent ces faits, car ces mollahs ne connaissent même pas l'histoire du Pakistan. Donc, je vais citer ces faits afin que les gens puissent comprendre ce qu'ont fait les Ahmadis pour les musulmans de l'Inde et pour le Pakistan. Par exemple, il y a une grande personnalité du journalisme et de la littérature, le Maulana Muhammad Ali Johar, qui a écrit dans son journal Hamdard du 26 mars 1927, il déclare « Ce sera le comble de l'ingratitude que de ne pas faire mention ici de Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad et de sa Jamaat bien organisée. » Car ils ont consacré toute leur attention au bien-être des musulmans sans faire de distinction de doctrine. Et le temps est proche où cette communauté organisée servira d'exemple aux musulmans en général et à ceux en particulier qui font de grandes mais vides déclarations concernant leur service à l'islam. Donc, cela concerne des gens qui font de grandes déclarations, mais des déclarations qui sont vides, qui ne servent à rien. Il a donc déclaré que Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad et sa Jamaat va servir d'exemple à ces personnes. Ensuite, il y a un autre grand leader musulman, Maulana Abdul Majid Sahlik, qui écrit dans son journal Akhbar que grâce à ces déclarations, Mirza Saheb, c'est-à-dire Mirza Bashiruddin Mahmoud Saheb, a rendu un grand service aux musulmans. C'était une tâche qui incombait aux grandes Jamaat, mais cette tâche a été accomplie par Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Comme on le sait, c'est Qaïd-e Azam, c'est-à-dire Mohammad Ali Jinnah, qui a tout fait pour la création du Pakistan. Mais il fut un temps où il a désespéré et il a quitté l'Inde pour venir s'établir ici au Royaume-Uni. Il a même écrit que moi j'ai ressenti que je ne pourrais rien faire pour l'Inde. Je ne peux changer l'opinion des hindous et je ne peux ouvrir les yeux des musulmans. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'établir à Londres. Cette situation a secoué les musulmans et celui qui avait la plus grande sympathie pour les musulmans était la Jamaat Ahmadiyya. Et c'était aussi le deuxième calife qui éprouvait sa plus grande sympathie. Donc il a fait beaucoup d'efforts pour rétablir la situation et il a demandé à l'imam de la mosquée de Londres de l'époque, Abdurrahim Dadsaib, de convaincre Qaïd-e Azam afin qu'il retourne dans la politique, et Abdurrahim Dadsaib a pu le persuader après de grands efforts. Qaïd-e Azam lui-même déclare que l'éloquence et la persuasion de l'imam Saheb ne m'a laissé aucun choix que d'accepter ces faits. Un historien, Min Shim Saheb, qui est un non-Ahmadi, a écrit que M. Liaquat Ali Khan et Abdurrahim Dard, l'imam de la mosquée de Londres, ont poussé Ali Jinnah à changer de point de vue et il est retourné dans le pays afin d'aider le peuple. Donc, M. Jinnah a retourné en Inde en 1934 et a été élu à l'Assemblée. Le juge Munir, qui était le président de la commission d'enquête de l'année 1953, rapporte que sans aucun fondement et par simple animosité, on a allégué que les Ahmadis ont tout fait pour que le district de Gurdaspur tombe à l'intérieur des frontières de l'Inde. Zafullah Khan, qui avait été choisi par Qaid Azam pour défendre le cas du Pakistan, a présenté des preuves contraires selon ces personnes. Mais moi, le président de cette commission d'enquête, qui était aussi membre de ce comité sur le district Gurdaspur, doit exprimer ma reconnaissance pour les efforts accomplis par Zafullah Khan en faveur du district Gurdaspur. Tout cela est mentionné noir sur blanc dans les papiers de la commission sur la frontière. Celui qui est intéressé par ces choses peut lire tout cela. Chaudhry Zafullah Khan a servi les musulmans en toute abnégation. Et en dépit de cela, certains ont prouvé leur basse ingratitude en traînant son nom dans la boue dans les tribunaux. Chaudhry Zafullah Khan a servi les musulmans, mais son nom a été traîné dans la boue par ces mots-là au cours de cette commission d'enquête. Le Pakistan a donc été fondé et le deuxième calife, et suite à ces directives, les membres de la communauté ont fait des efforts pour la création de ce pays. Je vous ai présenté quelques exemples ici, mais l'histoire va toujours témoigner que c'est le califat de la Jamaat Ahmadiyya qui a toujours soutenu les Ahmadis dans leurs besoins spirituels et matériels. Et le califat a toujours guidé les musulmans et la Oumma. Que cela concerne la question du Cachemire ou de la Palestine, ou que cela concerne les droits des musulmans du sous-continent indien. L'histoire de la Jamaat Ahmadiyya témoigne que tout le temps, la Jamaat Ahmadiyya était en première ligne afin d'aider les musulmans. Mais qu'ont fait les mollahs à ce propos? Ils disent que le Pakistan existe à cause de notre présence. Lisons un peu ce qu'ils disent. Ce sont des rapports de cette commission d'enquête et on a cité Ataullah Shah Bukhari, le leader des Ahrari. Il a déclaré, je cite, « Celui qui peut écrire la lettre P du Pakistan n'est pas encore né. » Et dans ce rapport, il est dit qu'au cours de ces troubles, le leader des Ahrari a fait un discours à Lahore. Et dans ce discours, il a déclaré, je cite, « Le Pakistan est une prostituée que les Ahrari ont acceptée par force. » Fin de citation. Voilà encore une autre déclaration de Shah Saheb. Il a déclaré, « Ceux qui vont voter pour la Muslim League sont des porcs et ils sont des mangeurs de porcs. » Fin de citation. Ensuite, dans cette commission d'enquête, il a été dit que dans la réunion du 3 mars 1940 du Majlis Ahrar à Dehri, on a passé des résolutions et on a contré la création du Pakistan. Et certains leaders ont qualifié le Pakistan de Palidistan, c'est-à-dire de terre impure. Et selon ce rapport de cette commission d'enquête toujours, il est dit que la Jamaat Islami était contre la création du Pakistan, le Pakistan que voulait créer la Muslim League, et ils ont qualifié le Pakistan de Na-Pakistan. Ils se sont opposés à la création du Pakistan et dans aucune de leurs déclarations, ils ont soutenu la création du Pakistan ou ont aidé le Pakistan. Au contraire, dans toutes leurs déclarations, ils étaient contre la création du Pakistan. Et il y a la déclaration de Maududi. Il déclare, je cite, « Ceux qui pensent que les musulmans vont quitter cette région et vont se libérer des hindous et vont pouvoir établir une démocratie et qu'ainsi ils vont créer un État musulman, qu'ils sachent qu'ils font la fausse route. Tout ce qu'on aura en retour sera un État de mécréants musulmans et ce sera diffamer le nom de Dieu que de donner le titre d'État divin à ce pays. » Fin de citation. Mais aujourd'hui, ces mêmes mollahs sont en train de secouer ces terres afin d'être les dirigeants de ce pays. On comprend donc maintenant le point de vue de ces mollahs à propos de la création du Pakistan suite à leur déclaration et suite aux déclarations du juge Munir. Et aujourd'hui, ces mêmes mollahs se posent en protecteur du Pakistan. Et tout gouvernement qui est en place essaye d'amadouer les mollahs et craint les mollahs. Et en tête de liste dans le programme des mollahs est de tout faire contre les Ahmadis. En 1953, il y a eu des troubles contre les Ahmadis, mais il y avait des personnes qui étaient justes à l'époque. C'est pour cette raison que les mollahs n'ont pas pu atteindre leur objectif. Mais ensuite, en 1974, le gouvernement d'alors a lancé une campagne d'opposition au nom de l'islam et s'est joint aux mollahs pour commettre des persécutions contre les Ahmadis. Ils ont laissé des exemples dans le domaine de la persécution et de la barbarie. Et lorsqu'à l'avenir, il y aura des historiens justes qui vont écrire l'histoire du Pakistan, ils vont qualifier cette période de chapitre noir dans l'histoire du Pakistan. Et ensuite, en 1984, un dictateur a fait entériner cette loi qui a été formée en 1974. Et il a endurci cette loi afin d'anéantir les Ahmadis. Et il a fanfaronné en disant que moi, je vais détruire ce cancer qu'est l'Ahmadiyya. Mais quelle en fut la conséquence? L'Ahmadiyya n'a fait que progresser de jour en jour. On ne sait pas où se trouvent ces personnes aujourd'hui. Ou peut-être, jusqu'à présent, elles sont écrasées sous la meule du décret de Dieu. En dépit de toutes ces persécutions qu'a subies la Jamaat Ahmadiyya, grâce au califat, puisque la Jamaat est unie sous une seule bannière, Allah a toujours soutenu la communauté et a fait sortir cette Jamaat. La Jamaat a fait preuve de patience face à ces troubles et jusqu'à présent la Jamaat fait preuve de patience. Tout cela est en raison de leur lien avec le califat et tout cela prouve que quant à ceux qui ont prêté allégeance au Messie premier l'Islam, ils ont fait des efforts pour s'acquitter de leurs devoirs. L'État et le gouvernement du Pakistan doivent se souvenir de ce fait que si vous avez en tête le bien-être du Pakistan et tout Ahmadi et tout citoyen doué de bon sens prie et fait des efforts en ce sens, donc si vous avez en tête le bien-être du Pakistan, alors essayez d'établir le Pakistan du Qaïd-e-Azam et n'essayez pas d'ériger des murs de haine au nom de la religion. Et au nom de la religion, on est en train de jouer avec le sang des autres. Qu'a déclaré Qaïd-e-Azam, le fondateur du Pakistan, en 1947, au cours de son discours inaugural de l'Assemblée? Voyez un peu ce qu'il a déclaré et voyez la décision de l'Assemblée en 1974. Qaïd-e-Azam déclare que si nous voulons établir une république, nous devons consacrer toute notre attention au bien-être du pays, On doit aider la masse et les pauvres. Si vous coopérez et si vous agissez de concert, après quelque temps, il n'y aura plus de différence entre majorité et minorité, plus de différence entre les provinces, plus de différence entre les communautés. Nous voulons établir une république où il n'y aura plus de distinction, plus de différence entre communautés, plus de différence entre races et castes. Nous voulons agir afin que tous les citoyens soient égaux dans cette république. Vous devez être libre afin de partir dans vos temples. Vous devez être libre pour partir dans vos mosquées. Vous devez être libre pour partir dans n'importe quel lieu de culte du Pakistan. Quelle que soit votre école de pensée, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre caste, cela n'a rien à voir avec l'État et avec les affaires du gouvernement. Voilà ce que nous devons avoir en tête. Voilà notre principe de base. Ali Jinnah déclare que voilà notre principe de base. Il déclare que vous allez voir qu'après quelque temps, les hindous ne seront plus des hindous, les musulmans ne seront plus des musulmans, pas dans le sens religieux, car chacun peut avoir la foi qu'il veut, mais au sens politique, il n'y aura plus de différence, tous seront les citoyens égaux d'un même pays. Voilà le concept du Qaïd-e Azam, mais voyez comment agit l'Assemblée du Pakistan en 1974. Voilà les principes énoncés par le fondateur du Pakistan. Voilà, selon lui, comment agir pour le Pakistan. Comme je l'ai déclaré, ce n'est pas la tâche d'une assemblée d'un État que de décider des actes d'adoration et du culte de tout un chacun. Le jour où le gouvernement pakistanais va agir selon ce principe, dès ce jour, lorsqu'on va agir selon les directives de Qaïd-e Azam, le Pakistan va faire de nouveaux progrès. Et ces murs entre les communautés vont disparaître. Et c'est là que les Pakistanais vont voir le Pakistan que Qaïd-e Azam voulait établir. Donc, les politiciens doivent tirer leçon de leur histoire. Selon l'islam, personne n'a le droit de décider de la foi d'un autre. Personne n'a le droit d'imposer sa foi. L'islam ne nous en donne pas la permission et le fondateur du Pakistan non plus n'a pas donné cette permission. En tant que citoyen, tout citoyen pakistanais doit avoir le même droit. Le droit de vote, le droit de travailler et le droit de pratiquer sa religion et sa foi. Et la loi doit s'appliquer à tous. Lorsqu'il y aura les droits égaux, c'est là qu'il y aura la paix dans le pays. Le gouvernement doit tirer leçon de cette situation. Après la décision de l'année 1974 et lorsque cette loi a été entérinée et revue en 1984 et lorsque cette loi a été mise en place contre les Ahmadis, le pays a sombré davantage. Le pays n'a point progressé. Au contraire, ils ont fait un pas devant et trois pas derrière. En dépit de toutes ces persécutions, les Ahmadis ont fait des efforts pour le bonheur de ce pays et ont pris en ce sens. Mais que ceux qui essayent de nuire aux Ahmadis sachent que Dieu va certainement se venger. Quotidiennement, on tue les Ahmadis au nom de la loi et au nom de la religion. Mais ce sang ne coule pas en vain. Qu'ils sachent que Dieu a déclaré وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Et quiconque tue un croyant à dessein recevra l'enfer comme récompense où il demeurera pendant longtemps. Allah sera courroucé contre lui, le maudira et préparera à son intention un châtiment rigoureux. Donc craignez le châtiment de Dieu. On dit que les Ahmadis ne sont pas musulmans, mais à propos de la foi, il est dit dans un hadith que la partie la plus importante de la kalima est la ilaha illallah. Cela ne concerne pas le kalima tout entier. Il a déclaré que la partie la plus importante est la ilaha illallah. Et on sait qu'au cours d'une bataille, un compagnon a subjugué son ennemi et l'ennemi a récité la kalima, mais quand même, il a tué cet ennemi. En entendant cela, le saint prophète était courroucé et il lui a demandé « As-tu ouvert son cœur pour voir s'il avait récité la kalima sincèrement ou pour protéger sa vie ?» Le compagnon était pris de remords et a dit que « Si seulement j'avais pas accepté l'islam auparavant afin de ne pas voir la colère du saint prophète Mohammed B. S.A.W. » Mais en dépit de cela, ces soi-disant musulmans sont en train de tuer les Ahmadis qui récitent la kalima. Quelques jours auparavant, on a assassiné sauvagement un jeune couple d'Ahmadis, des Ahmadis qui habitaient la ville de Multan, au Pakistan. La faute de ces personnes est qu'ils avaient accepté l'imam de l'époque. Ils étaient tous deux médecins, des médecins qui étaient très appréciés. Il y a le docteur Shiraz qui avait 37 ans et son épouse, le docteur Nourine Shiraz, qui avait 28 ans. C'est la femme mortière la plus jeune dans la communauté, je pense. Et leur assassin était dénué de toute humanité. Ces deux médecins étaient là pour servir l'humanité. Ils étaient là pour servir leurs malades, c'est-à-dire les malades musulmans. Mais quand même, ils ont été assassinés sauvagement. Que ces gens sachent que les Ahmadis sont en train de tomber à mortir pour une cause. Mais vous avez rejeté la vérité, cette vérité qui est évidente grâce à la venue du Messie premier, l'Islam, ce serviteur du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et maintenant, il n'y a plus de paix dans ce pays. Et pour cette raison, des douzaines de personnes sont tuées quotidiennement sans aucune raison. Et tout cela n'est qu'une forme de vengeance. Et si nous, en tant qu'Ahmadis, nous ne sommes pas musulmans, mais vous êtes en train de vous entretuer. Et Allah sait bien comment il va traiter ces personnes. Il va les traiter et les juger selon ce verset. Donc ces gens n'ont aucune crainte de Dieu. Qu'Allah ait pitié d'eux. Et quelques jours auparavant, on a su que suite au conflit qu'il y avait avec l'État et les gens du Swat ou de la région de Swat, l'État a donné la permission à ces gens d'établir la loi de la charia. Et ils ont donc établi leurs tribunaux qui vont juger selon la charia. Et ces gens ont déclaré que les juges n'ont rien à faire ici. Le gouvernement doit se souvenir de ce fait, que cela a débuté maintenant, mais cela ne va pas s'arrêter là. Le pays tout entier va souffrir de cela et va perdre tout espoir de paix. Dans le monde, le Pakistan est considéré comme un pays de terroristes. Le ministre de l'Extérieur d'ici a déclaré que si le gouvernement ne fait rien, alors ce pays va tomber entre les mains des terroristes. Ces mots-là qui qualifiaient le Pakistan de Palidistan, c'est-à-dire de terre impure, ces mots-là sont en train d'arriver à leur fin. Et maintenant, leur effort est d'avoir le pays tout entier. Qu'Allah ait pitié, car ils vont peut-être effacer le nom de ce pays, le Pakistan. Les califes de la communauté Ahmadiyya ont tout le temps averti les gouvernements, à savoir qu'on doit éviter tout contact avec les mollahs, car si vous les posez sur vos épaules, vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Mais ils n'ont pas compris cela. D'une part, ces politiciens se posent en bienfaiteurs du pays et font de grandes déclarations, mais d'autre part, ils n'arrivent pas à comprendre cette vérité, à savoir que les mollahs sont en train de pousser le Pakistan vers la destruction. C'est pour cette raison que l'on ne doit pas se lier aux mollahs, car ils vont nuire au pays et au gouvernement. Nous ne pouvons que prier pour qu'Allah sauve ce pays. Si les mollahs, quant à eux, pensent qu'ils vont arrêter le progrès de l'Ahmadiyya en assassinant des Ahmadis, alors ils sont en train de se leurrer. Comme je l'ai déclaré, l'Ahmadiyya est en train de progresser. L'Ahmadiyya est une arche qui a été bâtie par Dieu. Et Allah lui-même va protéger cette arche et son voyage va continuer, Inch'Allah. Certes, de temps en temps, certains Ahmadis vont tomber à martyr. Cela va se passer ainsi. Et quant à ceux qui sont tombés à martyr, ils vivent éternellement, tout comme l'a déclaré Dieu. Ces gens sont en train de jouir de l'amour de Dieu. En tout cas, les Ahmadis doivent prier, surtout les Ahmadis pakistanais, car ce pays est maintenant sur le bord d'un précipice de feu et seule la prière des Ahmadis pourra sauver ce pays. Les Ahmadis ont fait beaucoup pour la construction de ce pays et ils vont, Inch'Allah, faire beaucoup pour aider ce pays et ils vont prier en ce sens. Maintenant, je vais évoquer ces deux médecins qui sont tombés à martyr. Le 14 mars, ils retournaient de leur travail et ils sont arrivés à leur maison à 3h15. Et on pense que quelques personnes les attendaient et qu'ils ont été tués cruellement. Par la grâce d'Allah, ils étaient tous de Moussi. Le docteur Shiraz, son cadavre se trouvait dans la chambre à coucher. Il avait les mains ligotées dans le dos. Il était bâillonné. Il y avait des cotons dans la bouche et il y avait des cordes autour de lui. Et on pense qu'il a été étranglé. Et lorsque leur servante est arrivée l'après-midi, il a vu que le cadavre du médecin était pendu à un ventilateur. Et son épouse, quant à elle, se trouvait dans le salon. Elle était, elle aussi, ligotée et bâillonnée. Le docteur Shiraz Sahib était un ophtalmologue et le docteur Nourine travaillait à l'hôpital général. Ils étaient tous deux des médecins très appréciés. C'étaient des gens très affables et aimables. Et ils étaient reconnus pour leur qualité. Ils ont travaillé à l'hôpital Fazl Umar de Rabwa. Et ils habitaient dans une enceinte fermée et protégée. Il y avait des murs hauts, des murs qui portaient des barbelés. Il y avait un grand portail avec des gardiens. Mais en dépit de toutes ces mesures, on a pu pénétrer dans cette enceinte. Donc, l'on pense qu'il y a eu un complot, car on ne peut pas entrer dans cette enceinte sécurisée sans passer par les vérifications. Donc, ils sont tous coupables. C'était des gens très capables. En 1998, l'un d'entre eux a reçu un prix. Ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient jeunes. L'époux avait 37 ans et l'épouse avait 28 ans. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de ces deux personnes et il y a aussi la prière funéraire du docteur Aslam Saab qui était l'amir d'une région du Pakistan qui est décédé le 15 mars. Il avait travaillé en Sierra Leone sous le plan Nusrat Jihad. Il était aussi amir de la région. Quelques mois auparavant, il avait subi une attaque au couteau. Quelqu'un a dit que tu es un Kadiani et je vais t'assassiner. En tout cas, il a été protégé par des gens autour de lui, mais il a subi des blessures. Il avait 74 ans, donc l'on pense qu'il s'est affaibli en raison de ses blessures. Mais il était aussi cardiaque et il est décédé de ses maladies. Il était un moussi, a été enterré au Maqbara Moussia. Et ensuite, il y a Sayyida Nazra Begum Saheba, épouse de Mian Sharif Saheb. Elle était la fille de Azizullah Shah Saheb et la sœur de Sayyida Mir Appa, qui était la cousine du quatrième calife. C'était une dame très sincère. Qu'Allah exalte le statut de toutes ces personnes décédées et qu'Allah leur accorde sa proximité et qu'Allah fasse que ceux qui sont derrière puissent continuer à accomplir leurs bonnes œuvres. Amin.